Backstage, le podcast, vous le savez maintenant, ce sont Margot Delpierre, journaliste radio, et Thomas Langlin, technicien supérieur du son. Ils nous font découvrir les coulisses de la création par la voix de ceux qui font la culture. Vous pouvez retrouver l'ensemble de leurs podcasts sur leur site, backstagelepodcast.com, tout attaché en minuscules. Aujourd'hui, quatrième et dernier épisode donc de l'entretien avec l'éditrice Sabine Vespizer, au micro de Margot Delpierre, sur un montage et un mixage de Thomas Langlin. J'ajouterai que cet entretien a été enregistré en novembre 2020.
Vous disiez que vous étiez prof avant d'arriver dans le milieu de l'édition. Qu'est-ce qui vous a fait passer d'un monde à un autre ?
Le désir de partager, le désir de ne pas être entravé. Or, quand on est prof dans une salle des profs, on peut tout à fait partager sans être entravé. Enfin, dans une salle de classe, plus exactement, je me sentais libre. Dans une salle de prof, c'était plus compliqué. C'est-à-dire que j'avais quand même le sentiment que cette machine-là, ce grand mammouth, avait quand même laminé beaucoup de gens et que j'avais face à moi des collègues plus âgés. J'avais 23 ans quand j'ai commencé à enseigner, qui avaient un peu oublié pourquoi ils avaient choisi telle matière à l'université, et je trouvais ça un peu triste, et j'ai besoin de brûler de l'énergie, et je m'ennuyais, en fait, à vrai dire. La vie a fait que j'aurais peut-être pu me déployer dans un métier de professeur, j'aurais pu passer l'agrégation, m'investir dans de la pédagogie, j'aurais pu le faire, enfin je veux dire, je n'avais pas d'inappétence pour ça, mais il se trouve que la vie, on a décidé autrement, parce que un jour quelqu'un m'a dit: tiens, toi qui aimes tellement la littérature contemporaine, tu devrais faire un stage dans une maison d'édition. Que je suis tombée sur Hubert Nissen qui m'a dit: qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je dis: je ne sais pas si je vais continuer d'enseigner, en tout cas je suis en train d'écrire une thèse sur la réception du roman grec de l'Antiquité à nos jours. Vous savez, le Corpus et les Belles Infidèles, Lucien, Perrault d'Ablancourt, tout ça, ces traductions du XVIIe, XVIIIe. Et Hubert me dit: mais faites une collection. Voilà, c'est parti comme ça, en fait. Il y a toujours une collection dans le catalogue d'Actes Sud, même si elle n'est plus alimentée, qui s'appelle Les Belles Infidèles et qui était mon premier acte modeste d'éditrice.
Plusieurs de vos auteurs ont reçu des prix, des récompenses pour leurs ouvrages. Quelles conséquences ça a pour votre maison d'édition ?
Ça a une conséquence économique immédiate. Les prix prescripteurs font vendre, et on a absolument besoin de cela pour exister. Enfin, je suis plus que jamais frappée par la nécessité de respecter cet équilibre entre la survie économique et le respect d'une ligne éditoriale. Je reçois beaucoup en ce moment, et ça c'est quand même stupéfiant de par le fait du succès de quelques blogueuses, des propositions de blogueuses. Je vais pas me mettre à publier des blogs de développement personnel, d'abord parce qu'ils existent déjà sur Internet, ça me paraît bien suffisant et que je ne m'en sers pas, mais je vais continuer à publier des textes qui ont une exigence formelle, qui ont un sens, qui suscitent chez moi une émotion. Et en même temps, j'ai envie que ma maison continue d'exister. Donc cet équilibre entre l'économique et le littéraire est plus que jamais d'actualité. Mais j'ai bien envie de pouvoir continuer, enfin, à le respecter. En tout cas, je ne changerai pas ma ligne éditoriale pour autant.
On a beaucoup parlé de la crise sanitaire et elle fragilise encore plus une situation économique difficile. La rentrée littéraire est très critiquée. La rentrée littéraire, c'est plus ou moins 500 livres qui déboulent tous au même moment ou presque. Quel est votre regard là-dessus, vous qui choisissez d'en publier une dizaine seulement par an? Est-ce que vous comprenez aussi, après, ces difficultés pour les libraires qui se retrouvent des fois avec des choses à écouler? C'est très difficile de faire un choix là-dedans.
C'est très difficile, mais moi, j'ai compris. Vous me parlez de surproduction, à vrai dire. Vous me parlez aussi d'un phénomène très français qui est celui de la rentrée littéraire, que je trouve plutôt réjouissant. Parce que je trouve que voir l'ensemble des journaux, des radios, des médias se préoccuper de littérature pendant l'automne, moi je trouve ça plutôt réjouissant. Après, ce que je trouve évidemment très peu réjouissant, c'est cette surproduction. Mais je ne puis que l'observer avec fatalisme et lucidité. La surproduction vient de la concentration des maisons. depuis quelques années. Nous vivons des crises multifactorielles, nous vivons des crises de la lecture, qui viennent aussi de l'avènement des écrans. Tout le monde a analysé ça et on connaît ces causes-là très bien. Mais cette crise de la lecture a suscité un effondrement des tirages moyens, qui fait que certaines maisons se sont rapprochées de groupes pour pouvoir survivre et donc se sont concentrées. Quand vous avez un ou deux ou quatre salariés, comme c'est mon cas aujourd'hui, vous avez des frais fixes beaucoup moins importants que quand vous avez 400 ou 4000 salariés. J'ai compris, moi, la surproduction, mais vraiment de manière très pragmatique et très intime, cette fin de mois de juin 2003 où j'ai reçu le relevé de vente de mon diffuseur. Le relevé était négatif parce que je publie 10 livres par an, il y a 12 mois dans l'année. Mathématiquement, il y a des mois où je ne publie rien. Ce mois de juin 2003, je n'avais rien publié. Et il se trouve que les réassorts des livres des mois précédents avaient été moins importants que les retours. Donc, je devais de l'argent au libraire. Très bien. Et là, je me suis tout de même dit que si j'avais choisi un autre modèle économique, j'avais décidé de créer une maison avec un business plan, de faire entrer d'autres actionnaires que familiaux, c'est-à-dire mon mari et moi, j'aurais publié 5 ou 10 livres en ce mois de juin. Et la surproduction, elle est là. Elle est dans la nécessité d'amortir les frais fixes. Donc, la surproduction, elle se manifeste de toutes les manières. C'est-à-dire que les éditeurs se sentent obligés de publier, en même temps développent une espèce de discours vertueux en disant « Non, non, on publie pas trop, notre rentrée est réduite ». Sauf que si vous regardez vraiment dans les coins, vous voyez des quantités de collections qui sont des collections par définition inutiles, puisque des collections de commandes. Ça n'a pas de sens de commander un texte à un écrivain. Pour moi, un écrivain, c'est quelqu'un dont l'œuvre est un jaillissement spontané. Mais il y a quantité de textes de commandes, quantité de faux livres. Je parlais de blogueuses qui réunissent en livres leurs conseils sur Internet, etc., etc. Et tout ça est absolument désespérant, j'en suis bien d'accord. Fait que le métier de libraire devient de plus en plus, en effet, un métier de manutentionnaire, mais fait que les groupes gardent leur présence sur les tables et leur suprématie. Et c'est assez déprimant sur le fond, ouais, bien sûr.
Notre premier invité dans le podcast, Bruno Tessaret, qui est écrivain fantôme, nous avait parlé de ça, de certains de ses éditeurs, certains, pas tous, qui regardent en gros ce qui pourrait se vendre le mieux, quelles sont les personnalités les plus populaires du moment, et qui effectivement font beaucoup de travaux de commandes. Ça, c'est quelque chose que vous trouvez déplorable ?
Bah, je trouve que c'est de l'industrie pure. C'est absolument dommage que ça vienne polluer l'activité d'éditeur, parce que somme toute, les gens qui font ça sont aussi des éditeurs, et qu'à un moment donné, le joueur de foot, la blogueuse, le présentateur de télévision ou autre starlette de la télé-réalité qui va signer un livre va finir par se prendre pour un écrivain. Ça accrédite aussi cette espèce de grande confusion des valeurs, de grand nivellement par le bas, qui fait que quand on va dans des salons du livre, ce qui m'arrive rarement parce que j'essaie d'épargner mes auteurs, je ne parle pas des festivals, hein, les festivals avec évidemment des débats et des rencontres, c'est autre chose, mais ces salons du livre où finalement vous avez quelqu'un dont on sait très bien qu'il n'a pas écrit son livre, qui est un homme politique et dont Bruno Tessaret a écrit le livre en écrivain fantôme, va se prendre légitimement pour un écrivain, et c'est ainsi que son éditeur va le présenter. Donc forcément, ça m'énerve parce que je pratique le métier de manière vertueuse parce que je n'ai pas les moyens de le pratiquer autrement, mais que j'aime la manière dont je fais mon métier. Mais ça m'énerve surtout parce que ça éloigne de nous les lecteurs, parce que ça éloigne de l'ensemble d'une profession les lecteurs, et que c'est très difficile de tisser une relation de confiance aujourd'hui avec des lecteurs échaudés qui vous disent, mais comme ils sont nombreux à venir nous dire à la fin des rencontres, des débats, mon Dieu, mais j'en ai assez d'acheter des livres à quand même 20 euros et qui sont nuls, qui sont pas relu par des correcteurs, par des éditeurs, dont le contenu est indigent, etc. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Enfin, je veux dire, moi, je vais pas faire une déclaration publique en appelant mes confrères à un peu d'éthique professionnelle. C'est impossible. Donc voilà, je continue à faire mon métier comme je peux dans l'ombre, en ayant du plaisir à le faire et en luttant pour surtout ne pas devenir aigrie. Enfin, ce qui est une pente que votre question pourrait éventuellement éveiller. Donc, je me méfie de moi-même.
Quelle définition alors vous mettez derrière le mot écrivain ?
Créateur. Pour moi, un écrivain, c'est un créateur, c'est un artiste. C'est quelqu'un qui, avec des mots, fait ce qu'un compositeur fait avec des notes, un peintre ou un artiste contemporain avec des matériaux. Enfin, c'est vraiment pour moi un artiste. Et je revendique absolument cette définition romantique de ce métier. C'est un écrivain, c'est pas un artisan. Et au risque de me faire enduire de goudron et de plumes par des associations d'auteurs, être auteur, c'est pas un métier comme un autre. C'est au départ, au commencement, il y a un talent, il y a une capacité à réinventer le monde. Je veux dire, un auteur, c'est pas quelqu'un à qui on commande un texte pour raconter son expérience professionnelle. Enfin, c'est autre chose. Il faudrait d'autres mots. On n'a pas assez de mots dans la langue française.
Votre maison fêtera bientôt ses 20 ans. On y est presque.
On y est presque.
De quoi vous êtes la plus fière? Et à votre avis, qu'est-ce qui vous reste à accomplir? De quoi vous avez encore envie?
De quoi j'ai encore envie? De continuer à faire mon métier le plus longtemps possible comme je le fais. C'est-à-dire que ce qui n'est pas un vain mot, parce que je l'ai dit à plusieurs reprises, ça devient difficile. Moi, j'ai de plus en plus le sentiment que c'est difficile de faire entendre les voix de mes auteurs. J'ai de plus en plus le sentiment de naviguer sur un océan déchaîné en ayant des gros paquebots qui se rapprochent et qui vont bientôt se tamponner. Donc, j'essaie de maintenir à flot le frêle esquif. Donc, moi, mon désir le plus vif, c'est de continuer à travailler comme je travaille, de continuer à pouvoir découvrir des auteurs, de continuer à montrer aux écrivains que je publie qu'ils ont raison de me faire confiance. Les plus grandes joies, ça a été des livres exceptionnels. Je me souviens de moi lisant jusqu'à 3h du matin le manuscrit en français de Terre des oublis de Duong Thuong, grande dame de la littérature vietnamienne, et me disant, on était donc en 2005 parce que le texte est paru en 2006, mais c'est pas possible, je vais pouvoir publier ça moi dans ma jeune maison. C'est du niveau d'un Philip Roth, d'un Coetzee, c'est de la très haute et grande littérature. Donc oui, ces bonheurs-là, c'est énorme. Recevoir l'année dernière le texte anglais de Girl dont j'ai parlé, de Edna O'Brien, et le lire, mais en apnée d'une traite, une journée, c'était merveilleux. C'était merveilleux de me dire que j'allais pouvoir porter ce livre-là, bien sûr. Recevoir le premier roman de Dima Abdallah en me disant « Mon Dieu, mais c'est incroyable le rapport à la langue qu'elle a, cette femme, elle n'a jamais publié. » Voilà, c'est ça qui me motive et qui illumine mes journées, bien entendu, c'est de partager ça.
C'est des petites joies.
Et ou des grandes.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci beaucoup à Sabine Vespizer, invitée de Backstage, un podcast monté et mixé par Thomas Langlin.